Premières heures. Jeudi 24 juin 2021. Maguire Air Force Base, Trenton, New Jersey. Un Boeing 787 au fuselage endommagé stationne au bout de la piste 2, non loin des hélicoptères Black Hawk et des gros bimoteurs gris à hélice de l'US Air Force. Trois véhicules blindés sont en position près du long courrier. Une nuit chaude aux odeurs marines tombe sur un terrain vague qu'envahissent les genêts et la sauge. Près des entrepôts, les camions militaires se succèdent en un balai ininterrompu. Dans un mélange d'urgence et de discipline, des centaines de soldats aménagent on ne sait quoi dans un vaste hangar dont on vient d'évacuer l'imposant avion cargo Lockheed C-5 Galaxy, qui était en révision. Près des immenses portes coulissantes se découpent, minuscules, trois silhouettes. Le maintien de la femme en ersatz raté de tailleur Chanel et d'un des hommes en costume sombre Men in Black laisse peu de doute, ils appartiennent au service. Le dernier individu est plus atypique. Il porte les cheveux longs et plutôt gras, des lunettes rondes en acier glissent sur son nez et son t-shirt troué clame « I love Zero, One and Fibonacci ». Il sent aussi la sueur, un peu, et la bière, beaucoup. Adrian Miller a beau avoir bu deux bouteilles d'eau, la tête lui tourne encore. Dès qu'il est descendu de la voiture de police, les deux agents sont venus vers lui, se sont présentés, et Miller a aussitôt oublié leur nom, celui du type de la CIA, comme celui de la femme du FBI. Il leur tend la main avec mollesse, sans feindre la moindre énergie. L'officier la serre avec réticence, raideur même, du bout des doigts, comme la nageoire visqueuse d'un poisson de vase quelque peu avarié. « Je dois avouer, professeur Miller, que je ne vous imaginais pas aussi jeune. » La femme du FBI, une latino aux traits fins, aux yeux vifs, la trentaine, jauge le mathématicien en silence. Elle lui trouve d'abord un air de John Cusack, disons un John Cusack du pauvre, en plus flasque, puis elle se ravise, non, même pas. Elle dit malgré tout avec un mélange d'étonnement et de respect, « Nous connaissons votre rapport par cœur, professeur Miller. » Un travail remarquable. Nous attendons beaucoup de votre expérience. J'imagine que le docteur Brewster Wong et vous-même avez déjà été confrontés au protocole 42. Adrian Miller grommelle un non inaudible. Il a si peu de nouvelles de Tina Wong qu'il ignorait qu'un Brewster était entré dans sa vie. Et non, il n'a jamais été confronté au protocole 42. À sa connaissance, aucun des événements prévus par les protocoles à probabilité limitée, n'est venu non plus perturber le trafic aérien, ni l'arrivée d'extraterrestres affectés à trois protocoles, rencontre du troisième type, guerre des mondes, intention inconnue, avec chaque fois une douzaine de variantes, dont la Godzilla pour faire plaisir à Tina, ni l'invasion par voie aéroportée de zombies et autres vampires, ou toute épidémie fulgurante aérobie comme une fièvre hémorragique du type Ebola ou un coronavirus envisagé dans cinq autres. Quant à l'hypothèse d'une intelligence artificielle maléfique prenant le contrôle du trafic, qu'elle agisse de façon autonome, protocole 29, ou téléguidée par une puissance étrangère, protocole 30, elle n'est pas encore advenue, bien que de plus en plus plausible. Mais le protocole 42, on ne peut pas être confronté au protocole 42. Miller boit une gorgée d'eau et se lance. Vous savez, madame, pardon, j'ai oublié vos noms. Agent Senior Gloria Lopez et mon homologue de la CIA, Marcus Cox. Eh bien, agent Senior Gloria Lopez, pour tout vous avouer, le protocole 42 est... Comment le formuler ? Adrian Miller boit une nouvelle gorgée d'eau. Les mots ne lui viennent pas. Il ne peut tout de même pas leur avouer que c'est juste une méchante blague de matheux qui a déjà coûté $500,000 aux contribuables, rien qu'en comptant les 20 ans où l'État a rémunéré deux farceurs pour porter en permanence des portables blindés qui n'auraient jamais dû sonner. Il observe le Boeing, gros cigare d'aluminium désormais éclairé par de puissants projecteurs. Savez-vous exactement pourquoi nous sommes là ? Qu'est-ce qu'il a de spécial cet avion, à part son pare-brise grêlé et son nez défoncé ? Le radome, corrige l'agent spécial. Le nez de l'avion, ça s'appelle un radome. La jeune femme les interrompt. Nous ne savons pas grand-chose, professeur Miller. Et l'hélico du professeur Brewster Wang est en approche, c'est le point noir là-bas au nord. D'ailleurs, venez signer en bas de cette feuille, professeur Miller, ajoute l'agent Cox en ouvrant une enveloppe. C'est un engagement de confidentialité. Toute information qui vous est désormais délivrée est classifiée. Si vous refusiez de le signer, cela vous ferait relever du tribunal militaire pour atteinte à la sécurité nationale. Et le violer après l'avoir signé, en vertu du 18 US Code paragraphe 79, serait considéré comme un crime de haute trahison. Merci de votre collaboration. Depuis, au moins le roi Arthur et ses chevaliers, la gens militaire, aiment à se réunir en rond, sans doute parce que le cercle proclame l'égalité des mérites sans rien cacher des réelles hiérarchies. La base de McGuire possède donc une grande table ronde au centre de la salle souterraine de commandement, aux éclairages crus et dont les murs sont tapissés de larges écrans. Plusieurs affichent l'image du 787 cloué au sol, filmée dans toutes ses faces par une batterie de caméras. Tina et Adrian ont préféré s'asseoir côte à côte pour affronter ensemble une grosse douzaine de généraux étoilés, de femmes et d'hommes de toutes les agences imaginables, avec leurs noms et références sous chevalet de plexiglas. Outre le FBI et la Défense, il y a là les Affaires étrangères, l'US Air Force, la CIA, la NSA, le NORAD, la FAA et d'autres sigles encore dont Miller n'a jamais entendu parler. Lui et Tina ont aussi droit à leur titre, nom et prénom, au-dessus d'un Massachusetts Institute of Technology, où l'un comme l'autre ne travaille plus. Tina Wang n'a pas beaucoup changé, bien qu'elle ait adopté une tenue plus sage que celle de la thésarde gothique qu'elle a été. Elle a eu le temps de lui glisser qu'elle n'enseigne plus, que, oui, elle a épousé un Georg Brewster, un physicien rencontré à la cafétéria de Columbia, et aussi avec une perfidie souriante, qu'elle aurait difficilement reconnu Adrian, vu qu'il ne ressemble plus tant que ça au Christian Slater du nom de la rose. Elle lui trouve désormais un petit côté Keanu Reeves qui perdrait ses cheveux, mais garde pour elle l'appréciation. Une voix puissante couvre le brouhaha. Ce grand homme mince n'a pas besoin d'étaler ses résultats à West Point, Colorado Springs, ni ses faits de guerre à Homs et à Mogadiscio. Ses cheveux blancs en brosse, les traits volontaires, musculeux, enfin les trois étoiles noires brodées sur son col valent curriculum vitae. Dans cette salle aux boiseries civilisées, son treillis camouflage gris-vert ne lui sert pas à grand-chose. « Mesdames, messieurs, je suis le général Patrick Silveria du National Military Command Center et je représente le secrétariat de la Défense en pleine autorité. La situation doit rester secrète et le président a préféré ne rien changer de son agenda à Rio, mais sachez qu'il reste informé en permanence. Je fais un tour de table. À ma gauche, le général Buchanan, qui commande la base de McGuire et nous accueille pour quelques jours. Je suppose que personne ne connaît les professeurs Miller et Brewster Wang à ma droite. Ce sont deux mathématiciens et nous leur devons les protocoles de crise que nous suivons depuis le 11 septembre. Les deux intéressés saluent gauchement dans un bruissement approbateur et Silveria poursuit. Le professeur Miller enseigne à Princeton, la professeure Brewster Wang est consultante pour la NASA et Google Corp. Ils auront toute latitude pour l'application du protocole 42, et je serai le coordinateur de cette opération. Avant qu'on me signale que la CIA n'est pas autorisée à opérer sur le territoire national, je précise que le protocole exige la coopération de toutes les agences. Tandis qu'un officier distribue à chaque participant une tablette et un épais dossier étiqueté « Classified Information », Silveria présente tour à tour l'agent senior du FBI et tous les autres, de l'agent spécial de la CIA au responsable de la surveillance numérique à la NSA, la trentaine, avec sa tête agaçante de geek fondateur de réseau social, et jusqu'à une petite femme à la voix douce et claire, aux cheveux courts et neige, malgré ses 40 ans à peine, Jamie Pudlowski, du Special Operation Command Psy-Op, spécialiste des opérations psychologiques. Tous, à leur manière, sont impliqués dans la gestion du protocole 42. La mémoire revient à Miller. Les agences gouvernementales impliquées, le grade de chacun autour de cette table et même l'ordre du jour de cette réunion. Rien que Tina Wang et lui n'est spécifié dans leur rapport. Notre équipe sera considérablement renforcée dans les heures qui viennent, poursuit Silveria. En ce moment même, De nombreuses personnes de différents horizons se dirigent vers la base et vont nous aider à affronter la situation. Les psyops du FBI nous envoient combien d'agents, agent spécial Pudlowski? Plus d'une centaine. Nous opérons aussi à partir d'un de nos bâtiments à New York. Merci. Vous avez devant vous l'état actuel de ce que nous savons de la situation. Le 787 sur le tarmac nous vaut à tous d'être ici. Il est entré en communication avec l'aéroport Kennedy à exactement 19h03, aujourd'hui 24 juin. Il s'est identifié comme le vol Air France 006 qui assure le Paris-New York. Cet appareil a signalé d'importants dégâts et a été réorienté sur cette base dans les minutes qui ont suivi. Le commandant de bord affirme être David Markle. Le copilote s'appelait Gideon Favreau. Et vous trouverez la liste intégrale des personnels de bord et des passagers. Je passe tout de suite la parole à Brian Mitnick de la NSA. Un mot à propos des tablettes, Brian ? L'homme de la National Security Agency se lève. Debout, il semble plus gamin encore, d'autant qu'il agite un fin rectangle noir avec un enthousiasme adolescent. Bonjour à vous tous. Vous avez devant vous une tablette, comme moi. La vôtre est personnelle et non verrouillée. En page d'accueil, vous avez le plan du Boeing 787. Cliquez sur chaque siège, un nom apparaît sur une fenêtre pop-up, siège par siège, y compris le personnel de bord. La NSA actualise vos tablettes en temps réel au fur et à mesure des remontées de data sur chaque personne embarquée sur ce vol. Dès qu'existe un lien vers une nouvelle page, dans une image ou un fragment du texte, il s'affiche en bleu. Cliquez et la page apparaît. Pour revenir en arrière, vous cliquez sur la flèche retour. C'est très simple. Maintenant, regardez sur les écrans de contrôle. D'un mouvement de doigt, Mitnick fait défiler les photos de Markle et de Favreau, puis celles des hôtesses et stewards. Pendant que Mitnick s'amuse avec son jouet, Silveria reprend la parole. Si le protocole 42 a été déclenché, c'est qu'un autre vol Air France 006 d'aujourd'hui s'est posé, voici plus de 4 heures à JFK, à l'heure prévue, 16h35. Il était assuré par un autre appareil, avec aux manettes un autre pilote et un autre copilote. En revanche, un Boeing 787 d'Air France, sous la même référence Air France 006, endommagé tout comme lui et piloté par ce même commandant Markle, assisté du même Favreau et embarquant le même personnel de bord et les mêmes passagers, pour résumer, l'exact même appareil que celui que vous voyez ici, ce même appareil donc, s'est posé à l'aéroport de JFK, mais c'était le 10 mars dernier à 17h17. Il y a 106 jours exactement. La cacophonie est générale et l'agent de la CIA y met fin en levant la main. « Je ne comprends pas. Le même avion s'est posé deux fois ?»« Oui, je le répète, c'est le même appareil. » L'un des techniciens de la maintenance nous le confirme. C'est sur ce même 787 qu'il est intervenu voici près de 4 mois. Selon lui, les dommages sont moindres, comme si l'avion était resté deux fois plus longtemps dans la grêle. Mais il reconnaît avec certitude certains impacts sur le pare-brise, certains dégâts qu'a subi le radome, etc. Je passe en liaison directe avec le pilote. Un léger Larsen chuinte dans la salle de commandement. Bonjour, commandant Markle. De nouveau, le général Patrick Silveria. Je suis avec l'état-major de crise. Puis-je vous demander, une fois encore, de vous présenter, de nous redonner votre date de naissance ? La voix de Markle résonne dans la salle. Elle est lasse. David Markle, né le 12 janvier 1973. Général, les passagers sont à bout de nerfs. Ils veulent débarquer. Nous allons les évacuer dans les minutes qui viennent. Une dernière question, commandant Markle. Quel jour sommes-nous ? Quelle heure est-il ? L'instrumentation est HS. Nous sommes le 10 mars et à ma montre, il est 20h45. Silveria coupe la communication. L'horloge lumineuse affiche pour date le 24 juin et pour horaire 22h34. Sur le plus grand des écrans apparaît soudain l'image d'un malade intubé sur un lit d'hôpital. Cette photographie a été prise il y a 10 minutes par un agent du FBI dans la chambre 344 du Mount Sinai Hospital. Cet homme s'appelle aussi David Markle. C'était le pilote du vol Air France 006 du 10 mars dernier. Ce David Markle-là est en train de mourir d'un cancer du pancréas, diagnostiqué voici 1 mois. Silveria se tourne vers Adrian Miller et Tina Brewster-Wong, qui restent muets. Comprenez-vous pourquoi nous avons déclenché le protocole 42? Et quelle est la marche à suivre maintenant?